Nous avons vu dans cette grande trilogie d'introduction, nous avons déjà vu que le Saint-Esprit est une personne divine. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Je ne reviens pas sur tout, tout est en ligne, vous pouvez vous servir, tout est à votre disposition. Nous avons vu les caractéristiques de sa personne et nous avons vu aussi ensemble les œuvres du Saint-Esprit. Et une fois que nous avons cette présentation qui nous permet de tous parler le même langage et d'avoir la même pensée lorsque nous prononçons certains mots, il est nécessaire ensuite d'aller plus loin. Le Saint-Esprit étant une personne variée, équilibrée, riche, précieuse, toute puissante, le Saint-Esprit étant cette personne dont nous avons désespérément besoin, dont nous avons besoin de sa vie, de lui, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il peut, il va être nécessaire de l'accueillir, de le recevoir. On le reçoit tel qu'il doit être reçu. Il doit être reçu comme Dieu, le Saint-Esprit. Et la pensée qui est justement sur mon cœur ce matin, c'est recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et au travers de cette ligne de pensée, dans ce message, vous allez voir qu'il est question évidemment de mon attitude de cœur, que le comportement, l'attitude de mon cœur, le cœur, comme Vincent nous l'a fait chanter, le cœur grand ouvert, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, il y a effectivement cette attitude de cœur, cette réceptivité, cette sensibilité à la personne, à la présence du Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit, il faut le recevoir. Alors on va lire deux, trois textes ensemble. Le premier se trouvant dans l'évangile de Jean, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles avec moi. Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14 et au verset 15, s'il vous plaît. Jean au chapitre 14 et au verset 15. C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, mais il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. » Implicitement, Jésus dit à ses disciples, « Vous non plus, vous ne me verrez plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Et là, le Seigneur pense vraiment, « Vous vivrez de ma vie. Vous vivrez de la vie que je suis. Pas de la vie que je possède. Vous vivrez de la vie que je suis. Vous vivrez aussi de moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. » Ici, on a un des nombreux textes qui sont reliés à la promesse, aux promesses de Jésus concernant le Saint-Esprit. Ici, Jésus, alors qu'il n'a pas encore été ni crucifié ni ressuscité, Jésus annonce déjà son ascension. Jésus est déjà en train d'annoncer l'après-résurrection. Et Jésus est en train de leur dire, « Oui, vous, je vous comprends, vous trouvez que ça marche très bien entre nous, vous aimeriez certainement me garder, comme beaucoup de chrétiens aimeraient bien encore avoir un Jésus en chair et en os, quelque chose de palpable, de touchable, quelqu'un à qui on peut se raccrocher, quelque chose de visible. » Et le Seigneur leur dit, « Oui, ça marche très bien entre nous, mais il faut que vous compreniez que ça ne peut pas s'arrêter là. » Vous avez Dieu le Père, vous avez Dieu le Fils. Si vous vous arrêtez là, vous manquez énormément de choses. Parce que je suis à côté de vous, je suis avec vous, je suis près de vous, mais vous ne pouvez pas puiser en moi. Vous ne pouvez pas puiser dans mes ressources. Vous ne pouvez pas puiser dans ma vie. Vous ne pouvez pas puiser dans mes richesses. Jésus était tout, il avait tout, il faisait tout. Mais les disciples étaient les plus pauvres et les plus orphelins, parce que même s'ils avaient le roi des cieux incarné à côté d'eux, ils ne pouvaient rien puiser en lui. Et Jésus avait tout, mais eux, ils n'avaient rien. Ils étaient toujours pauvres, toujours désemparés, parce qu'en plus, ils n'étaient pas tout le temps à côté, ils n'étaient pas tout le temps avec lui. Bien des moments, le Seigneur va s'isoler tôt le matin, tard le soir, la nuit, dans la journée, dans les déserts, sur les montagnes, seul avec le Père. Il va, il prie. Et pendant ce temps-là, les disciples, ils font quoi, eux? La Bible ne le dit pas, mais il y a des moments, ils ont dû avoir vraiment le temps long, hein, en attendant que Jésus revienne, jusqu'à ce qu'il donne la prochaine instruction. Alors ils sont tristes parce qu'ils se disent, mais Seigneur, si tu n'es déjà même pas tout le temps avec nous, si en plus tu t'en vas et que tu n'es plus jamais avec nous, il y a une tristesse des disciples. Ils auraient tellement voulu que ça continue ainsi. Et puis en même temps que le Seigneur leur dit, il faut que je m'en aille, l'œuvre doit se compléter. Quand je serai ressuscité, glorifié, l'œuvre sera complète. Pour vous, ne vous inquiétez pas, il y a une part, rien n'est fini. Pour vous, vous pensez que ma venue est une finalité, mais Jésus leur dit ainsi, non, ma venue n'est pas une finalité en soi. Ma venue est juste un commencement et croyez-moi, ça va continuer, mais sous une forme différente et ça va continuer dans des proportions et dans des dimensions que vous ne sous-estimez encore, que vous ne connaissez pas encore. Même après la résurrection, les disciples ont encore du mal à comprendre quand Jésus leur dit « Allez à la chambre haute, vous recevrez ». Et eux, ils sont encore dans le « Ah, c'est une finalité ». Et c'est pour ça qu'ils disent au Seigneur « Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Parce qu'ils pensent que l'œuvre est finie, qu'elle est bouclée, qu'elle est complète. Jésus est ressuscité. Jésus va peut-être finalement, quoi qu'il l'ait dit ou pas, va quand même rester tout le temps avec nous. Et Jésus va mettre les Romains dehors. Nous avons un Messie terrestre. Nous avons un Seigneur visible. On a quelqu'un de palpable. Et est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Ça signifie pour nous aujourd'hui, ça y est Seigneur, tu vas régler tous nos problèmes. Et Jésus leur dit, non, je ne vais pas régler tous vos problèmes. Je vais vous communiquer la personne qui est plus grande que tous vos problèmes. Je ne vais pas vous donner une influence. Je vais vous communiquer ma personne super influente. Je ne vais pas vous donner une puissance. Je vais vous donner une personne toute puissante. Et c'est dans ces dimensions que Jésus essaye d'ouvrir l'esprit de ses disciples et de leur faire comprendre à quel point ils ont besoin de rentrer dans ces dimensions. Et que ce n'est pas du tout dans leur intérêt que Jésus reste avec eux. Alors ils se sentent totalement désemparés, et en vérité, à ce moment-là, ils se retrouvent exactement comme beaucoup de chrétiens dans notre paysage français aujourd'hui. Des orphelins. Plus de papa, plus de grand frère, Dieu mon père est toujours au ciel, il n'en est jamais descendu, et Jésus mon grand frère s'en va, il remonte au ciel, et eux, ils se retrouvent ici, tristes, désemparés, comme des orphelins. Pardon, il y a tellement de chrétiens, comme c'est dommage, qui après avoir reçu Jésus, qui après avoir compris le pourquoi de sa venue, son œuvre, la croix, la purification des péchés, la résurrection, l'ascension, il y a tellement de chrétiens qui sont là et qui restent dans la vie les bras ballants, les yeux fixés au ciel, à attendre la prochaine venue de Jésus et malheureusement, en attendant qu'ils reviennent, de vivre comme des pauvres gamins, comme des orphelins qui ont été abandonnés sur le trottoir à l'arrêt de bus, comme si leurs parents leur disaient « T'inquiète pas, je vais revenir, hein. Tu sais absolument pas quand, mais je vais revenir. » Et on est là, les bras ballants, les yeux fixés au ciel, la bouche ouverte, et maintenant on fait quoi ? Et maintenant il se passe quoi ? Malheureusement, combien de chrétiens ont les caractéristiques de l'orphelin ? Ils ont les faiblesses de l'orphelin. Ils ont la pauvreté de l'orphelin. Ils ont les inquiétudes des orphelins, parce qu'un orphelin, il n'a pas d'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir ? Ils ont l'inquiétude, les inquiétudes de l'orphelin. Ils ont toutes les carences des orphelins. Carence d'amour, carence de paix, carence de joie, carence de vigueur, carence de puissance, carence de dynamisme, carence d'énergie, carence de force, carence de courage. Ils ont toutes sortes de carences spirituelles. Toutes les failles, toutes les faiblesses, toutes les carences, toutes les limites, toutes les peurs, l'absence de ressources qu'ont malheureusement tous les orphelins. Et combien de gens, combien de croyants malheureusement n'ont pas encore entendu cette parole de Jésus ? Ou s'ils l'ont entendu, ne l'ont pas reçu, n'ont pas compris cette parole de Jésus, ne l'ont pas saisie pour eux. Je vais te donner un autre comme moi. Je vais te communiquer, je vais te donner le halos paraclétos, la personne glorieuse du Saint-Esprit, le consolateur. Paraclétos désigne bien une personne, le halos paraclétos, le halos, celui qui est égal et identique en tout point. Et Jésus dit à ses disciples, vous m'avez vu, vous m'avez aimé, vous m'avez accueilli, vous m'avez suivi, vous m'avez écouté, vous m'avez obéi, vous avez vu des choses, mais maintenant vous allez arrêter d'être spectateur de votre vie spirituelle. Le Saint-Esprit en vous va faire de vous des acteurs de votre vie spirituelle. Et vous allez arrêter d'être spectateur, mais vous allez vivre la vie de Dieu dans une dimension que vous ne connaissez pas. Tant que je suis à côté de vous, le ciel ne peut pas être dans votre cœur. Vous avez les yeux au ciel en attendant d'y aller un jour. Amen. Mais en attendant, vous ne pouvez pas avoir le ciel dans votre cœur. Il vous manquera toujours une dimension. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, non, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai un autre moi-même. C'est pour ça que Jésus dit dans un autre passage, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous ne comprenez pas à quel point c'est profitable, à quel point c'est avantageux pour vous que je m'en aille et que je remonte au ciel. Parce que moi j'étais à côté de vous, le Saint-Esprit, il sera en vous. Et si votre cœur est ouvert, vous allez commencer à vivre de toutes les bénédictions, de toute l'alimentation, de toutes les ressources du ciel pour vous. Jésus n'était pas, quand il était sur la terre, Jésus n'était pas omniprésent. Les actes des apôtres me disent que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, faisant du bien. Il n'était pas omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Jésus était à côté d'eux. Le Saint-Esprit est en moi, il est en eux, il est en vous, en tous ceux qui veulent le recevoir. Jésus était à côté d'eux, mais ils n'étaient pas transformés. Ils étaient toujours pauvres, ils avaient toujours le même sale caractère. De toute façon, Jésus pouvait dire tout ce qu'il voulait. C'est l'exemple type de ce que je vous ai dit au début de la trilogie. C'était la parole, la parole, la parole, la parole, sans capacité. « Ah, c'est beau, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Ah, c'est merveilleux. Oui, mais toi, Pierre, qu'est-ce que tu vis ?» Ben, tant que Jésus est à côté de toi, tu ne vivras rien. Il faut qu'il s'en aille, il faut que le Consolateur, il faut que le Saint-Esprit vienne. Tant que Jésus n'était pas parti, tant qu'ils n'ont pas accueilli et reçu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas être transformés. Ils ne pouvaient pas vivre la vie de Dieu. Et ils ne pouvaient même pas faire les œuvres de Dieu. Sauf, je mets une toute petite parenthèse, sauf en Matthieu 10, vous lisez cette petite parenthèse, Matthieu 10, où le Seigneur envoie ses disciples deux par deux pour proclamer le royaume, chasser les démons, guérir les malades. Mais vous vous apercevez que c'est juste une parenthèse dans leur parcours de 3 ans et demi. C'est arrivé une fois, jamais avant, jamais après. C'était comme un avant-goût, une exception. Jésus leur a donné un avant-goût de ce qu'ils vivraient plus tard avec le Saint-Esprit. Mais quand ils sont revenus auprès de Jésus, à l'issue de Matthieu 10, il ne s'est plus jamais rien passé. Ils étaient toujours les mêmes, ils étaient toujours en train de se chamailler pour un oui, pour un non, ils étaient toujours en train de dire des bêtises, toujours inquiets pour l'avenir, jamais le caractère de Jésus et jamais les œuvres du Christ, ça s'est arrêté net. Quel honneur, Dieu le Saint-Esprit, je ne reprends pas tout le premier message, hein. Dieu le Saint-Esprit, Dieu lui-même vivant personnellement, en moi, dans une relation accessible, permanente, ininterrompue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, être les plus riches de tous les gens de cette terre, simplement par sa présence, pour l'accueil, pour la relation, la communion avec lui, ayant accès à un potentiel de vie extraordinaire. Il y a des tas de chrétiens, ils entendent ça, ils vous demandent pardon, mais leur vie chrétienne se résume à attendre le prochain bus, le prochain Jésus. Mais il y a autre chose, Dieu a une dimension de vie pour chacun de nos cœurs. C'est un don, c'est un don. Jésus dit, je prierai le Père vous donnera ce Consolateur. C'est un don, c'est un cadeau. Pierre dit à la Pentecôte, la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants. C'est un don, c'est un cadeau, mais le cadeau, le don, il faut l'accepter, il faut le prendre, il faut l'accueillir. Il y a celui qui tend le cadeau, mais il y a celui qui le reçoit. Alors on va parler de ce verbe recevoir. On va un peu plus loin, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean. Et là, on va au chapitre 20 maintenant, s'il vous plaît. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, là on est après la résurrection. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté percé. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Que Jésus souffle, que le Père, que Jésus envoie l'Esprit, ça ne suffit pas. C'est le cadeau, ce sont les bras qui se tendent, c'est le cadeau qui est offert, mais ça ne suffit pas. Sinon, il ne se passera rien de plus. Recevez, verset 22, recevez le Saint-Esprit. Ici, les disciples, après la résurrection, pourtant Jésus est ressuscité. Ils sont quand même dans la crainte, ils sont quand même dans la peur. Et Jésus les visite le premier dimanche soir de la pré-résurrection. Il va les visiter de nouveau, huit jours après, ils sont encore enfermés. Jésus est ressuscité, mais pour l'instant, ça ne leur sert de rien. Parce que tant que l'esprit de résurrection ne grave pas les choses dans leur cœur pour en faire des réalités puissantes, de toute façon, Jésus est ressuscité, ils sont contents. C'est la preuve qu'on a eu raison de le suivre, mais ça ne leur donne rien de plus. Et huit jours après, ils sont encore dans la peur, ils sont encore dans la crainte, ils sont encore enfermés, ils sont encore dans l'échec, ils sont encore ignorants et inquiets de l'avenir qui pourrait être le leur. Et c'est là que Jésus leur dit « Recevez le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va vous sortir de vos peurs. C'est sa vie qui va faire que votre vie va être non plus une vie en 2D, mais en 3D. » Que votre vie va prendre du relief. C'est sa présence, c'est sa personne, c'est son action qui va vous sortir de vos faiblesses, qui va vous faire sortir de votre médiocrité. Il va vous donner de la hardiesse, du courage, de la vigueur. Il va vous pousser, il va vous remplir. Et puis il va vous permettre d'aller de l'avant pour vous éviter de tourner et de tourner en rond, sans arrêt, dans les mêmes limites, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes échecs, dans les mêmes défaillances de caractère, dans les mêmes échecs au travail, dans les mêmes échecs de couple, etc., etc. C'est lui qui va vous sortir de votre médiocrité. C'est lui qui va vous sortir de vos entraves. C'est lui qui va briser vos liens. C'est lui qui va briser vos chaînes. C'est lui qui va vous sortir de vos conceptions, de vos raisonnements, de vos prisons intérieures. Parce que si nous, on n'est pas enfermés dans ce lieu, c'est ouvert, vous rentrez, vous sortez comme vous voulez. Il y a combien de prisons là, dans les cœurs ? Des prisons intérieures. Et Jésus dit, c'est le Saint-Esprit qui va vous sortir de ces prisons intérieures qui sont bien plus épaisses, ces prisons dont les barreaux, les murs, c'est du béton armé épais, ce sont les pires que les forteresses de Jéricho, ce sont ces murs-là, ce sont ces barreaux de prison-là qui vous enferment et qui vous tiennent à l'intérieur. Les plus gros murs qui empêchent l'Église d'avancer, ce n'est pas ces murs matériels, ce sont les murs qui sont à l'intérieur par lacune du Saint-Esprit. Acte 8, Jésus leur redit, le verbe recevoir, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. À la Pentecôte, Pierre dit, après la prédication de la Pentecôte, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse, le don, le cadeau est pour vous et pour vos enfants. On l'a vu ensemble quand Paul va à Éphèse. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru au Seigneur Jésus ? Recevoir, est-ce que vous l'avez reçu ? Alors, ici dans tous ces textes, le verbe recevoir en grec c'est le verbe lambano. Et ça a un sens très particulier. Vous savez, malheureusement, même si le français est une belle langue, il y a quand même bien des moments où le français est très limité. Parce que nous, on fait une multitude de choses avec un même verbe. On aime, aimer, 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 aimer. Vous convenez qu'entre aimer ses frites et aimer sa femme, entre aimer son chien, aimer son travail et aimer Dieu, il y a des grandes différences dans la palette d'amour. On est bien d'accord. Pourtant, on n'a qu'un seul verbe. Ici, c'est pareil. Le verbe recevoir, vous pouvez recevoir une lettre. Vous pouvez recevoir un ami. Vous pouvez recevoir le président de la République. Mais pour tous ces mots, c'est le verbe recevoir. Ce sont des mots, malheureusement, passe-partout, qui appauvrissent notre langue et qui appauvrissent la compréhension. Les textes hébreux et grecs, ici en l'occurrence, sont des mots beaucoup plus riches parce qu'on sait qu'il y a différentes façons d'accueillir quelqu'un. Il y a peut-être des fois des gens, excusez-moi, quand vous avez vu certains commerciaux douteux, ça se voyait à 3 km, qui voulaient vous vendre quelque chose, vous avez ouvert la porte, ne serait-ce qu'à moitié. Mais qu'est-ce que c'est pourquoi ? Vous n'avez pas ouvert en grand et vous avez bien fait. Vous avez reçu les gens sur le pas de la porte. D'accord ? Parfois, on reçoit des gens, ou peut-être vous-même avez-vous fait cette expérience, d'avoir été reçu, certes, mais reçu d'un accueil distant, pour ne pas dire glacial. Et quand vous avez été reçu, si ça vous est arrivé, de façon distante ou glaciale, chez certaines personnes, vous ne vous êtes pas trop éternisé. Hein. Une fois le dessert fini, vous avez dit merci beaucoup, c'était très aimable, mais... Et vous ne vous êtes pas, pardon l'expression, hein, vous avez senti que vous n'étiez pas les bienvenus, vous ne vous êtes pas lâché. Vous n'avez pas été vous-même. Vous n'avez pas pu vous relâcher et puis être là, être vous-même dans ce moment-là. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne. Il a des sentiments. On l'a vu. Il sait si on veut de lui ou si on ne veut pas de lui. Il sait si on est poli, respectueux ou si on a soif de lui de tout notre cœur. Et s'il se sent accueilli d'un accueil froid et glacial, il ne va pas se lâcher. Il ne va pas se relâcher. Il ne pourra pas relâcher toutes les dimensions de sa personne, de sa présence, de sa puissance, de son action, de ses œuvres. Je vous l'ai déjà dit, souvent on s'est dit, où sont les miracles ? Non, la vraie question c'est où est le Saint-Esprit ? Pardon, j'accueille pas le Saint-Esprit comme j'accueille le facteur. Mais dans la boîte. J'ai pas le temps. Mets dans la boîte le message. Tu le mets dans la boîte. Le truc vert, carré, mets dans la boîte. Merci, au revoir, à bientôt. Et malheureusement, avec le temps, le courrier s'accumule dans la boîte. Il y a combien de chrétiens, pardon, il y a combien de chrétiens, chaque dimanche, le Seigneur dépose un truc dans la boîte. Le courrier s'accumule. Il faudrait peut-être que tu ouvres ton courrier. Parce que dans le courrier, il y a des chèques. Dans le courrier, il y a des ressources. Dans le courrier, il y a tellement de choses dont tu as besoin. Et dans la semaine, tu dis « Ah, j'ai pas assez d'argent sur mon compte. » C'est une image, hein, vous avez compris. « J'ai pas assez d'argent sur mon compte. Seigneur, je suis en panne d'amour, je suis en panne de ressources, je suis en panne de joie, j'ai pas de courage, je suis vidé, je suis lessivé, j'ai peur, ça y est, je suis dans le même péché, j'ai encore un travers, il y a encore un truc qui me tombe dessus. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie, elle change pas ?» Ça fait peut-être 2 ans que t'as pas été chercher ton courrier, si tu veux que je te dise. Il y a des chèques, il y a des chèques dans la boîte aux lettres, il faut aller les chercher. Puis il faut les prendre, il faut les accueillir, il faut les recevoir. Il y a des chrétiens, ils reçoivent le Saint-Esprit comme ils reçoivent l'urgentiste. Ah, quand la maison elle brûle, alors là, on appelle les pompiers. Et quand la maison brûle, quand le couple brûle, pas du bon feu malheureusement, quand ma famille brûle, quand ça ne va pas, à ce moment-là, là j'appelle le Seigneur. J'appelle le Seigneur Dieu l'Esprit. Et là, j'appelle l'urgentiste, j'appelle les pompiers. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un accueil qui est déjà un petit peu plus... Parce que quand ça brûle chez vous et que vous attendez les pompiers, quand vous êtes malade, que vos gosses, ils ont 41 de fièvre et que vous attendez le SAMU, là, vous attendez différemment. Vous êtes là. Ils arrivent. Oh, ils arrivent. S'ils n'arrivent pas, c'est une question de vie ou de mort. Ils arrivent. Ah chérie, c'est bon, le SAMU, je vois la lumière. Vas-y, cours. C'est là, c'est le 48, c'est chez nous, venez. Et on les accueille. Et une fois qu'ils sont venus, ah oh, merci, j'ai failli encore perdre la vie sur ce coup-là. Merci. Au revoir. À la prochaine. Et le problème avec l'urgentiste, c'est qu'il vient une fois. Et il y a des chrétiens, pardon, ils se contentent de certaines visites de l'urgentiste dans leur vie. Comment est-ce que je l'accueille, le Saint-Esprit ? Est-ce que je peux l'accueillir peut-être avec un petit peu plus, même dirais-je, de délicatesse, peut-être devrais-je le recevoir comme un invité de marque, comme un invité d'honneur ? Non, ça sert à rien. Ça marche pas. Marthe a essayé. Il nous est dit en Luc 10, 38 que Jésus entra dans un village où demeuraient Marthe et Marie et qu'une femme nommée Marthe le reçut. Elle l'a reçu, du verbe recevoir dans sa maison. Et comme par hasard, c'est pas lambano. C'est un autre verbe grec, je vous le dis, juste pour vous faire sourire parce que c'est imprononçable. C'est un autre verbe qui s'appelle upodekomai. Voilà, ça, on est tous très enrichis avec ça, mais ce n'est pas du tout le même verbe. C'est un verbe qui signifie recevoir en tant qu'invité. La relation qui a posé problème entre Marthe et Jésus à un moment de sa vie, c'est que Jésus n'était pas plus qu'un invité. Malheureusement, Jésus, le Dieu, le Saint-Esprit aussi, pour nous, n'est pas plus, dans le meilleur des cas, il n'est pas mieux qu'un invité. Peut-être de marque, de distinction, un invité de haut rang. Vous voulez peut-être même le recevoir comme le président de la République, ce que vous voulez, comme un ami. Ça ne marche pas. Parce que le président de la République, même s'il vient chez moi et que je le reçois en grande pompe, de toute façon, il n'est pas chez lui. Et il va repartir. Vous comprenez l'image ? Donc je ne peux pas recevoir l'esprit n'importe comment. Et c'est pour ça que Jésus dit à Marthe, qui avait reçu Jésus upodekomai, comme un invité, Marthe. Marthe, tu es inquiète, tu es agitée pour beaucoup de choses. Et littéralement, Jésus lui dit, tu es étouffée, étouffée, c'est ça que ça signifie. Tu es étouffée par la somme de tes inquiétudes. Et pourquoi ? Parce que tu as un problème de relation. Tu as reçu Jésus comme un invité, peut-être comme un ami, je ne sais pas. Il y a des fois des gens qui disent « Ah, le Saint-Esprit !» Parce qu'il y a des farfelus du Saint-Esprit sur Internet. Je vous en supplie, faites gaffe à ce que vous regardez. Parce que les guignols qui balancent des trucs du genre « Bonjour Saint-Esprit !» Ou les gars qui vous disent « Ah, le Saint-Esprit est mon ami !» Non, c'est pas « Oui, oui, au pays des violettes, excusez-moi. Le Saint-Esprit, c'est pas mon ami. » Non, mais t'es sérieux ? Vous obéissez à vos amis, vous ? Bien sûr que non. Mais le Saint-Esprit, il conduit, il parle, il dirige, il a une volonté, il a des plans, il organise, il est structuré, il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il ne faut pas faire, il sait où il faut aller, il révèle, il parle. Et moi, je lui obéis. Et même quand vous recevez chez vous vos meilleurs amis peuvent quoi pour vous ? Une fois qu'ils sont repartis, ben vous êtes toujours dans la même panade, ça ne change rien. Le verbe « lambano », ça signifie recevoir au sens de se saisir. C'est exactement l'image de quelqu'un qui comme Vincent nous l'a fait chanter, le cœur grand ouvert et que les bras se tendent et de saisir quelqu'un. C'est ça l'accueil, c'est ça recevoir le Saint-Esprit. Recevoir, se saisir de lui. Ce verbe lambano signifie aussi épouser, se marier avec. Ah là, il y a une autre dimension de vie et de partage. Se marier avec. Le verbe lambano signifie aussi être investi. Être investi dans la vie de l'esprit. Investi dans sa recherche. Investi dans sa personne. Investi dans ses œuvres. Investi dans ce qu'il dit. Être investi. Se saisir, épouser, se marier, être investi. S'associer au sens de se lier. De la même façon que je me suis lié à mon épouse, je me suis lié, je l'ai saisi, je l'ai reçu et je me suis lié à lui. Ça, c'est le verbe recevoir que Jésus prononce, c'est la chose à laquelle il pense. Le Saint-Esprit, il est Dieu, le Saint-Esprit. Pour beaucoup de gens, le Saint-Esprit, c'est comme un ami Facebook. C'est du virtuel. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réel. Il y a juste quelques photos, peut-être quelques belles images, quelques beaux clichés spirituels qui sont là sur ton mur. Le Saint-Esprit, c'est une personne bien vivante, bien réelle, bien présente. Ce n'est pas des photos. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas des commentaires. Ah ben ça, j'aimais bien. Il y a des chrétiens, ils sont spectateurs, ils font des commentaires. Ça, c'était pas mal dans la réunion. J'aime bien quand la réunion, elle est comme ça. Ah, moi, j'aime moins quand la réunion, elle est comme ça. Ah ben ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est moins bien. Ah oui, mais ça, c'est pas mal quand même. Pourquoi on fait pas ça ? Oui, mais dans les autres églises, ils font ça. Et pourquoi on fait pas ça ? Et pourquoi on serait pas rempli du Saint-Esprit ? Ça irait mieux. On fait pas des commentaires, c'est pas au choix. Je vis avec lui. Je l'aime, je le love. je ne vais pas lui faire un like. Je le love, je l'aime passionnément. Ce n'est pas un like, ce n'est pas un clic. C'est trop facile de cliquer, c'est trop facile de liker, c'est trop facile d'avoir des photos, c'est trop facile d'avoir un concept, c'est trop facile. Ça ne constitue pas une relation de vie. Et malheureusement, si j'ai une relation virtuelle de Facebook, de clic, de like avec le Saint-Esprit, tu peux faire tout ce que tu veux, tant que tu ne l'as pas saisi, épousé, marié, reçu, que tu ne t'es pas investi, que tu n'as pas cette dimension de vie avec lui, tu es comme tous les internautes de Facebook avec 3554 amis virtuels, et derrière ton écran d'ordi, tu es quand même le plus seul, le plus pauvre, le plus orphelin de tous les gens qu'on puisse connaître. Parce qu'il n'y a pas de dimension de vie. Cette semaine, dans le jeûne, on a partagé cette pensée du prophète Joël. Déchirez vos cœurs. Que vos cœurs soient déchirés devant Dieu. Qu'ils soient grands, ouverts, sans réserve. Les disciples sont allés dans la chambre haute. Dans la chambre haute, ils ont reçu l'ambano. Ils ont accueilli, saisi, épousé le Saint-Esprit. Ils se sont mariés avec. Ils se sont liés avec lui. Ils se sont saisis de lui. Ça leur a pris du temps. Mais vous savez, quand vous prenez du temps pour quelqu'un, c'est juste une preuve de l'amour que vous avez pour lui, de votre considération, de votre désir, de votre soif. Ça me fait toujours rire quand les gens disent « Oh, j'ai pas le temps ». Si tu savais la foule de choses pour lesquelles tu as le temps dans ta vie, tu t'en rends pas compte. Je ferme la parenthèse. J'ai pas le temps. On s'en passera. On fera sans. Je suis quand même chrétien. On s'en passera. Mon frère, ma sœur, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas tombé tout cuit du ciel. J'ai eu mon parcours avec Dieu. Si un jour tu te dis dans ton cœur, écoute-moi bien, je m'en passerai quand même, crois-moi, le Saint-Esprit dans sa douceur, dans son amour, dans sa grâce, dans sa passion pour toi, il permettra des circonstances dans ta vie qui te rappelleront que tu ne peux pas t'en passer. Si je veux avoir tous les bienfaits, si je veux avoir sa vie, avoir tous les effets de sa présence, il faut que j'ouvre, il faut s'ouvrir. J'aime beaucoup cette parole de Jésus. On étudiera tous les symboles de l'esprit. Le vent, l'eau, le feu, l'huile, la colombe. J'aime beaucoup cette image du vent. Parce que avec de l'eau, on peut toujours essayer de la canaliser. On lui met des barrages. On coule un lit à la rivière, on canalise, il y a différentes choses qu'on peut faire avec de l'huile, avec du feu, avec de l'eau, etc. Mais avec le vent, vous ne pouvez pas le contenir, vous ne pouvez pas le canaliser, vous ne pouvez pas lui dire « va par là dans ma vie, Seigneur, mais surtout, va pas par là, chasse gardée ». Avec de l'eau, vous pouvez faire ça, avec le souffle, vous ne pouvez pas faire ça. Et j'aime beaucoup cette parole de Jésus qui dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Il souffle. Mais si tu veux en ressentir les effets, il faut ouvrir. Le vent peut souffler extrêmement fort. Peut-être par moments, dans certaines réunions, dans certains moments de ta vie, tu as entendu réellement le souffle de l'esprit qui passait vraiment pas loin de toi. Mais le problème, c'est que tu n'as pas ouvert les portes. Vincent nous l'a fait chanter. Ouvrez les portes. Tu n'as pas ouvert ton cœur. Si tu n'ouvres pas les portes de ton cœur, si tu n'ouvres pas les fenêtres de ton cœur, les fenêtres de ta maison, le vent, il passe. Mais toi, tu es enfermé à l'intérieur. Il est conseillé par les experts de la santé publique d'aérer sa maison au moins 10 minutes par jour pour que l'air soit renouvelé. Avec le Saint-Esprit, je vous conseille d'ouvrir vos cœurs bien plus que 10 minutes par jour. Ce n'est qu'une image, vous avez compris. Il faut s'ouvrir, parce que si j'ouvre pas mon cœur, oui, le Saint-Esprit est là. Oui, il passe. Oui, il peut me réveiller. Oui, il peut mettre ce que vous voulez derrière. Le problème, c'est que ce n'est pas ouvert. Je ne l'ai pas reçu, je n'ai pas déchiré mon cœur devant lui. Et comme je suis encore enfermé à l'intérieur, une maison, pardon, une vie, un couple, une famille, une église qui ne s'ouvre pas au vent de l'esprit, et au bout d'un moment, il y a des odeurs Il y a des odeurs de religiosité, il y a des odeurs de tradition, il y a des odeurs de rancœur, il y a des odeurs d'amertume, il y a des odeurs de moisie, il y a des odeurs de critique, il y a des odeurs de légalisme, il y a des odeurs de suffisance, il y a des tas d'odeurs qui sont là, il y a des odeurs de dépression, il y a même au bout d'un moment, il y a des odeurs de mort. Vous savez, si vous aérez pas votre maison, vous allez finir asphyxiés, frères et sœurs. Si j'ouvre pas mon cœur et que je ne laisse pas le vent de l'esprit pénétrer et aérer, à terme, c'est l'asphyxie spirituelle. Quand Jésus dit ces choses, c'est pas pour nous embêter, vous savez, c'est vraiment dans notre intérêt, pour notre vie. Alors je ne veux pas rester enfermé. Pourquoi est-ce que je resterai faible? Pourquoi est-ce que je resterai incapable? Non, tu n'es pas obligé d'être défait. Tu n'es pas obligé d'être dépassé par les événements. Tu n'es pas obligé d'être toujours dans tes déséquilibres psychiques, émotionnels ou sentimentaux. Tu n'es pas obligé de rester fragile. Tu n'es pas obligé de rester craintif. Tu n'es pas obligé d'être triste. Tu n'es pas obligé de vivre comme un orphelin. Malheureusement, quand on n'a pas ouvert, déchiré son cœur et qu'on ne l'a pas reçu tel que Jésus le conçoit, on a payé des prix terribles. On a payé des prix dans nos vies, on a payé des prix sur nos lieux de travail, on a payé des prix dans nos couples, dans nos vies de famille. Il y a des tas d'églises qui sont en train de payer en France, ça me fait mal au cœur. J'entends de plus en plus de choses qui me déchirent le cœur. Il y a de plus en plus d'églises, de tas de problèmes, des tas de choses où ça sent la mort partout, parce que malheureusement, on n'a pas ouvert à ce vent de l'esprit, on n'a pas reçu cette personne glorieuse du Saint-Esprit, ce souffle du Tout-Puissant, ce moteur de vie. Le Saint-Esprit, c'est un moteur de vie. Je vous l'ai dit, la parole sans l'Esprit, c'est comme si vous aviez un rail au lieu de deux. Le train, il va partir de travers. C'est comme si vous aviez le coffrage, mais pas le béton. La doctrine est creuse, on ne peut pas s'élever, on ne va pas plus loin. C'est comme si vous aviez un beau bateau. Mais comme on ouvre son cœur, il faut ouvrir la grand voile, parce que sinon le vent, il ne poussera pas le bateau. Et malheureusement, c'est peut-être votre choix, vous avez le droit, moi j'ai décidé, c'est ma prière depuis des semaines, depuis des mois, je dis à Dieu, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux sentir le vent dans mes voiles. Je veux que mon ministère, je veux que ma vie, je veux que mon couple, je veux que ma famille, elle aille quelque part. Si vous le voulez, je veux que l'église de Manosque, elle aille quelque part. Mais si j'ouvre les voiles de mon cœur, le vent qui souffle toujours, parce que c'est le principe du vent, il souffle toujours. Le problème, c'est que moi, je n'ouvre pas la grand voile. Si j'ouvre mon cœur, si j'ouvre les voiles, je n'ai plus besoin de ramer avec ma vie chrétienne. Tu n'as pas besoin de ramer tout le temps. Ouvre la voile et l'Esprit va te pousser. Et ta vie, elle va être différente. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une Audi A7 Sportback avec siège en cuir, machin, tout le tutti quanti, mais tutti quanti magnifique, et puis que tu n'as pas de moteur et que tu es obligé de la pousser sur l'autoroute. C'est frustrant d'avoir un super bateau, parce que le bateau de la vie chrétienne, il est grand, il est gros, il est lourd, il y a des enjeux, il y a des défis. La vie chrétienne, c'est pas un truc pour les faibles. Il faut être courageux pour vivre la vie chrétienne aujourd'hui. Et le bateau est tellement gros que à la rame, ça ne va pas le faire. Le Saint-Esprit veut. Dieu le Père, Dieu le Fils veulent communiquer cette personne merveilleuse du Saint-Esprit. Mais nous, est-ce que nous savons ce que nous voulons? Et cette œuvre n'est possible que par une ouverture totale de cœur, un cœur grand ouvert pour l'ambano, pour recevoir. Saisis-le, investis-toi, lie-toi à lui, épouse-le, et ça te conduira nécessairement dans une vie bénie, une vie puissante, une vie dynamisée, une vie boostée, une vie de capacité, une vie renouvelée, une vie de ressources. Quelle richesse, quelle extraordinaire puissance de vie il y a dans la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Amen.